le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Francine Boucher, Laetitia Devernet, Joël Dufeuilly pour fêter les 30 ans de la joie de lire, la maison d'édition suisse spécialisée en littérature jeunesse, mais pas que, qui a été créée en 1987 à Genève, évidemment. On est tellement heureux, Francine Boucher, de fêter ces 30 ans avec vous, car... Vous êtes passé quelques fois ici, mais en tout cas, vous êtes quasi quotidiennement ici avec les beaux livres que vous éditez pour les enfants.
Merci.
Carmela et son grillon Negrito m'ont posé une question très difficile. Décidément, ces deux-là réfléchissent toujours autrement que la moyenne des gens, des journalistes ou d'autres experts. Je vais donc vous soumettre la question, car j'avoue ne pas savoir vraiment quoi leur répondre. Carmela et Negrito venaient d'entrer chez moi pour me prêter un livre qu'ils voulaient que je lise absolument, « Le sang nouveau est arrivé » de Patrick Declercq. J'avais ma télévision allumée et l'on entendait la déclaration d'un homme politique qui promettait de renforcer les équipes d'intervention rapide aux frontières et de multiplier les gardes-côtes pour répondre aux pressions migratoires accrues sur les frontières extérieures de l'Union européenne. C'est quoi une pression migratoire, me demanda Carmela. Bon, quand il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans nos pays. Pourquoi dit-il pression migratoire alors? Ce n'est pas de l'eau ou du gaz, mais des gens, non? Des gens bien précis, venus de pays précis, pour des raisons précises. Oui, oui, Carmela, oui, j'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est plus vite dit comme ça, c'est tout. Non, ce n'est pas tout, s'exclama Negrito en se posant sur le bout de mon nez, ce qui m'agace toujours aussi grandement. Ce n'est pas tout, et cela change tout, justement, dit-il. Moi je ne vois pas, mais vous allez m'éclairer, je suppose. C'est pourtant simple, enchaîna Carmela. Si tu désignes des êtres, leur âge, leur nationalité, les raisons qui les ont poussés à quitter leur famille, leur pays, et que tu racontes le chemin qu'ils ont fait, et les conditions de ce voyage, les souffrances endurées, les compagnons de route morts en chemin, si tu racontes tout cela, tu ne comprends plus pourquoi renforcer les frontières. J'allais essayer de répondre à Carmela quelque chose, mais le grillon ne m'en laissa pas le temps. « Et toi, qui as réponse à tout, dis-nous ce que vont faire ces gardes-côtes plus nombreux quand ils verront arriver les bateaux de fortune? Ils vont tirer sur les réfugiés ou ils vont les regarder se noyer ?» Francine Boucher, vous avez créé cette maison d'édition il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, oui.
Et aujourd'hui, vous vous dites, mais c'était une folie, c'était un pari, je l'ai réussi.
Oh, c'était une folie, certainement. Et je pense que quand on commence de cette manière, tout à fait innocente, on ne sait pas très bien ce qui va nous attendre. On doit recommencer. On ne sait pas très bien ce qui va nous attendre, et c'est mieux comme ça.
Oui, mais quand vous vous retournez quand même, j'ai regardé votre catalogue, alors évidemment on connaît, il y a toutes ces collections que vous avez initiées, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a un colloque pour fêter ses 30 ans qui aura lieu le 2 mars, et quand on regarde juste les titres des différentes tables rondes, on voit quelle est la politique éditoriale de la maison La Joie de Lire, mais tout de même, on voit que vous vous adressez aux enfants, des plus petits aux adolescents, aux jeunes adultes, avec quand même un souci de lucidité, une vraie exigence sur les thèmes et en même temps une énorme liberté sur la manière de les traiter et une grande poésie aussi. Il y a la place pour les trois, le concret, la réalité, la poésie et la liberté de l'imaginaire des auteurs.
C'est vrai que le colloque s'appelle « Les chemins de liberté ». Dans la littérature jeunesse, c'est pas par hasard que j'ai choisi ce mot, qui est sans doute un des mots que je préfère. Et évidemment que cette amplitude qu'on s'autorise nous amène à nous heurter à la réalité aussi. dans la façon de faire des livres. Enfin, on ne peut pas tout se permettre. On n'est pas si libre que ça. Mais en revanche, c'est important de se dire toujours que on reste libre et qu'il faut, il faut vraiment veiller à cette attitude de liberté, parce que ce public, c'est un public au fond qu'on ne connaît pas si bien que ça, contrairement à ce qu'on croit, et que c'est la liberté du lecteur aussi qui doit être respectée. Donc il me semble que ma façon d'être a été de travailler à la rencontre de deux libertés, comme si les livres étaient dans cet entre-deux.
Comment avez-vous connu ce monde de l'enfance aussi bien pour en parler, y compris avec tout ce que vous dites du doute nécessaire pour le respecter ?
En fait, c'est une expérience. Il y a d'abord sa propre enfance, hein, qui est très importante, toujours. Et puis après, il y a le lien avec mes enfants. Donc j'étais enseignante avec des ados, donc c'était une expérience intéressante qui m'a marquée aussi. Mais mes propres enfants ont vraiment cheminé à mes côtés. Et ils cheminent encore avec mes petits-enfants maintenant.
Aujourd'hui, parler à vos petits-enfants, des enfants de Calais, de la jungle par exemple, c'est du courage, c'est un devoir d'une maison d'édition, c'est encore une utopie ?
Non, bien sûr que ce n'est pas franchement ma tasse de thé de systématiquement utiliser les événements pour en faire des
non,
livres.
Non, c'est vrai.
J'ai jamais tellement.
C'est pas le genre de la maison.
Non, c'est pas le genre de la maison. Mais là, il se trouve que voilà, les hasards des rencontres font bien les choses. J'ai bien aimé le texte que Monsieur Tolade nous a proposé et je l'ai trouvé authentique et il m'a semblé que pourquoi pas, allons-y. Et je pense qu'on a eu raison parce que ce livre a beaucoup d'écho.
Vous lisez tout ce qu'on vous propose ?
Non, j'ai quand même 2-3 personnes avec moi.
Une grande fidélité dans l'équipe aussi sur ces 30 ans. C'est oui, là c'est, qu'on voit qu'on, vrai, construit, qu'on construit lentement une politique éditoriale.
Oui, c'est vrai. Bon, les personnes, il y a une personne qui travaille depuis 20 ans avec moi, par exemple. Oui. Les autres sont plus entre 8 et 10 ans. Mais elles lisent pour moi au départ. Et puis après, on me soumet les choses, on revient, on discute. Enfin, je ne suis plus ouverte qu'autrefois.
Plus ouverte,
oui,
c'est-à-dire
oui, je veux dire, pas ouverte par rapport à mes idées, mais ouverte par rapport à la collaboration. Avant, je décidais de tout, mais aujourd'hui, j'ai du plaisir à partager. Vous voyez, je grandis.
Oui, bravo. Il faut toute une vie, vous avez encore le temps de continuer à grandir. Alors, la joie de lire, quand vous créez cette maison d'édition il y a 30 ans, pourquoi ce titre ? Pourquoi mettre la joie en rapport avec la lecture ?
C'est tout simple, parce que j'ai repris juste avant une librairie qui s'appelait déjà comme ça,
et
qui avait été fondée en 1937, avec ce nom-là. Et puis en plus, la joie de lire, ça rappelle Maspero aussi. Mmh. Je trouvais intéressant, il n'y a pas... Mais la joie, c'est peut-être un peu ringard, la joie, parfois, dans le langage. Mais c'est très important, la joie. Quand on se lève le matin, il vaut mieux être de ce côté-ci que de l'autre, il me semble. Mmh. Donc pourquoi la lecture fait partie de cela. C'est un plaisir profond et par conséquent joyeux.
Et pour continuer sur les symboles forts de cette maison d'édition, la joie de lire, qui fut effectivement avant une librairie, à un moment où la littérature jeunesse n'était pas vraiment ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle se porte bien industriellement.
Oui, c'est sûr, bien sûr.
Voilà, on le voit. C'était déjà du courage, mais la joie de lire, cette maison que vous dirigez depuis 30 ans, elle n'est jamais univoque. Et la joie dont vous venez de parler, dans le haut de joie, il y a un hibou tout noir. C'est-à-dire le côté de la lumière qui nous saute aux yeux dans la joie de lire contient ce petit hibou qui nous parle de l'ombre.
Oui, et que on peut supposer que les hiboux lisent aussi la nuit.
C'était ça l'idée.
Oui, c'était ça l'idée.
Alors vous êtes venu accompagner, c'est compliqué quand on a un grand catalogue et quand même une vie de 30 ans, de choisir avec qui venir accompagner. Alors vous avez choisi de venir avec Laetitia Devernay et Joël Dufeuilly. Comment avez-vous fait ce choix ? Qu'est-ce qui sans dire que les autres auteurs,
non,
évidemment, ne sont pas.
Pas
intéressants, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais là, tout d'un coup, c'était symbolique de ces 30 ans. Expliquez-nous
oui,
ça.
Oui, parce que d'un côté, il y a l'image et de l'autre côté, il y a le texte. Et du côté de l'image, Laetitia est quelqu'un qui est jeune, qui est jeune et qui est extrêmement consciencieuse dans son travail, qui a beaucoup de talent, bien sûr, il en faut, mais qui prend son temps, enfin, qui est un peu hors du temps, c'est ce que j'aime bien chez Laetitia, et qui a une capacité à parler de son travail, ce qui n'est pas le cas de tous les illustrateurs. Et du côté de Joël Dufeuilly, c'est la littérature. La littérature a toujours été présente dans notre catalogue, et la traduction aussi. Et elle fait partie des traducteurs qui sont très à l'aise dans leur façon de faire et qu'on n'a pas besoin de reprendre parce qu'on a tout un travail que l'on fait pour certains traducteurs où l'on doit vraiment tout le temps intervenir. Et j'aime faire ce travail aussi. Mais avec Joël, c'est vraiment pas nécessaire.
Quand est-ce qu'on intervient sur une traduction ? Pourquoi ?
Parce que ça ne sonne pas.
Mais c'est fou qu'un traducteur ne sonne pas, si j'ose dire.
Mais c'est sûr, mais c'est très intéressant, c'est bien, ce travail. Mm-hmm. C'est un travail que j'aime beaucoup faire. C'est vrai qu'il y a une façon, tu en parlerais mieux que moi, mais une façon d'accueillir une langue dans sa propre langue. Et cette transformation, elle est étrange. Elle est presque un peu magique, au fond. Pourquoi est-ce que tout à coup, ça correspond ? Même si on ne connaît pas la langue d'origine, parce qu'évidemment, nous ne connaissons pas toutes les langues d'origine, on se dit, mais ça... Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui... Il y a une mélodie qui ne fonctionne pas.
Alors le hongrois, pourquoi Alors les textes de l'Est en général, hein, à la joie de lire, ont une belle place.
Ont une belle place. Et pourquoi pas la Hongrie, au fond.
Oui, alors, voilà. Bien sûr.
Donc on a traduit de beaucoup de pays. Et grâce à Joël, j'ai connu les textes d'Ermin Lazar, et qui sont des textes absolument délicieux. Voilà. Et que c'est une littérature pour la jeunesse qui prend vraiment pas le lecteur pour un imbécile, si je puis dire.
Joël Dufeuilly, donc vous êtes cette traductrice du hongrois dont vient de parler Francine Boucher. Est-ce que vous connaissiez la littérature jeunesse hongroise avant de travailler avec Francine Boucher ?
Alors, oui, puisqu'en fait, j'ai présenté cet auteur à Francine. Mais en fait, j'ai d'abord découvert la langue hongroise, puis la littérature hongroise, et c'est assez naturellement que j'ai découvert cet écrivain, parce que je pense que en Hongrie, il n'y a pas encore tout à fait cette distinction entre littérature jeunesse. Ça commence un petit peu maintenant, mais
dire que les enfants lisent tout ou les auteurs écrivent pour tous?
Non, c'est plutôt qu'il y a des écrivains, qui peuvent être aussi également des écrivains pour adultes, qui écrivent pour les enfants. Mais en fait, les deux auteurs hongrois que j'ai traduits chez Francine sont assez anciens, en fait, datent des années 70-80. Ce ne sont pas des écrivains contemporains. Et ils font partie tous les deux d'écrivains et de lectures que les parents transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, un peu comme Le Petit Prince, enfin, voilà.
Sauf que là, ce sont deux albums que j'aime beaucoup, Moi si j'étais grand, et Réponds correctement, avec des illustrations alors d'une grande modernité, me semble-t-il.
Mais c'est années 70, hein, pourtant. Ah, c'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs. Ouais.
D'une drôlerie, on se croirait dans le dessin de presse, il y a une dynamique, il y a quelque chose d'assez insolent.
Ah, c'est complètement insolent.
C'est subversif.
C'est subversif, insolent, c'est très moderne, et elle a écrit ça dans les années 70. Oui.
Alors, j'ai vu avec quelle gourmandise Francine Berger a dit c'est subversif. J'ai parlé d'insolence. Vous aimez ça, la subversion?
Oui, j'aime beaucoup.
Et alors, subvertir les enfants
Non, c'est simple. Non, c'est pas tellement ça, non. Non, mais c'est-à-dire que ça fait partie de la liberté aussi.
Mais oui.
Et les enfants comprennent très bien. On n'a pas besoin de leur dire. Il ne s'agit pas de les éduquer dans ce sens, ce serait absurde, mais de les laisser découvrir leur propre subversion. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire.
Ermin Lazar, c'est notre auteur, Dom Dodom. C'est un roman pour à partir de quel âge?
Je dirais plutôt 7 ans, en fait.
Ah oui, dès 7 ans.
C'est assez subtil. Oui. C'est plus que subtil, d'ailleurs.
Oui. Mais donc, voyez, moi je vous adore pour ça. Vous dites c'est assez subtil, c'est soutenu, et vous dites donc à partir de 7 ans. quelle confiance vous faites aux enfants, alors qu'aujourd'hui, les éducateurs, les parents, la société, à 7 ans, nous donnent l'image de bébé, et à 15 et 20 ans encore. Donc, je me dis, mais elle est merveilleuse avec les enfants.
Oh, je ne sais pas si je suis merveilleuse, mais je crois, au fond, il faut quand même faire confiance, quoi. C'est ça la question, c'est faire confiance. Et puis, lorsqu'on fait confiance aux enfants, ils nous donnent, il y a des retours magnifiques, ils nous apprennent des choses. Mmh. Enfin, c'est un mouvement de va-et-vient, je crois que c'est important. Mmh.
Qu'est-ce qu'on leur raconte dans Dom Dodom ? Ça, ça sonne, hein ?
Oui. En fait, Dom Dodom, c'est le nom d'un des personnages du roman. Qui a la particularité de ne savoir dire que ces trois mots, dom, dodom. Il ne sait pas parler, dès qu'il ouvre la bouche, il dit dom, dodom. Et il est entouré de personnages plus loufoques les uns que les autres, qui eux comprennent ce qu'il veut dire derrière ce dom, dodom. Et là où effectivement il y a subtilité, c'est qu'en général, les enfants qui lisent dom, dodom ou qui écoutent, eux aussi comprennent ce qui peut se cacher derrière Dom Dodom. C'est un livre qui raconte des aventures fantasques, de personnages complètement fantasques qui vivent dans une forêt. Et en réalité, ce sont, on pourrait dire, toute une bande de bras cassés, d'exclus de la vie, en fait, et qui ont réussi à créer une communauté un peu hors du système. Et où, grâce à la solidarité, l'humour, l'autodérision, ils arrivent au bonheur, alors que ce sont tous des exclus. Donc,
c'est un texte qui date
des années 70.
Là aussi,
oui.
Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de texte intéressant en Hongrie ?
Non, je pense pas.
Oh, si, je pense qu'il y a. Mais c'est une période où. Aussi, je pense.
C'est une période riche, en tout cas.
Oui.
Alors, merci pour nous donner envie d'aller voir du côté de la littérature jeunesse hongroise, de la littérature tout court hongroise. Laetitia Devernay, alors vous, c'est même pas trois mots d'homme. C'est pas de mots du tout, souvent.
Ah si, il y a le titre, quand même, qui est très, très important.
Mon Dieu.
C'est ce que je dis aux enfants. Quand on n'a qu'un mot, il faut savoir le choisir.
Alors, on va commencer par Diapason. Diapason, c'est un album qui est rectangulaire en hauteur, on va le décrire comme ça, très étroit et presque comme des troncs d'arbres. Évidemment, c'est adapté puisque on va ouvrir les pages et on va tomber sur des troncs d'arbres. Mais on ne voit que la racine et le début de l'arbre, on ne voit pas le feuillage, on en est loin. Et tout de suite, dès la première page, il faut être attentif parce que on a la jambe et le pied, enfin le genou et le bas de la jambe et le pied d'un personnage qui d'ailleurs a un pantalon rayé qui se confond presque avec l'écorce des arbres qui va rentrer dans la page et dans l'image. Et les deux pages d'après, nous allons découvrir le feuillage des arbres et le personnage en entier, et il se trouve qu'il a un costume un peu particulier et à la main une baguette de musique. Racontez-nous comment est né cet hommage à la musique, qui est un livre plein de silence et de musique, je devrais dire, avec des notes très très sombre et cuivré qui explose, d'autres plus fines en fonction de l'arbre dont il s'agit, si le feuillage est très sombre, très épais, ou en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, ou s'il est beaucoup plus parsemé ou beaucoup plus clair. Il y a très peu de couleurs dans ce.
Oui, c'est des nuances de noir et de blanc. Et il y a un jeu graphique très fort, effectivement, vous l'avez dit. Quand le personnage rentre dans la forêt, il a un pantalon qui est noir rayé de blanc. Et les arbres sont, eux, blancs rayés de noir. Et il y a un jeu comme ça dans tout le livre de trame et de densification des arbres et des feuillages. Et effectivement, quand on voit les oiseaux qui s'envolent de ces feuillages, on peut, nous, lecteurs, se dire que l'oiseau qui est le plus clair représente peut-être l'instrument le plus aigu. Voilà une petite... un petit violoncelle ou voilà. Et effectivement, il y a un jeu comme ça graphique. Ce livre est né de mon inhibition à dessiner. Voilà, moi je dis tout le temps, et ça fait sourire certains, que je ne sais pas dessiner, mais c'est vrai. Et du coup, je suis obligée de trouver des astuces pour exprimer ma narration. Et du coup, là, c'est vraiment une mise en place du feuillage qui représente les instruments et qui... Et c'est que des jeux de forme et de contre-forme. On l'a dit tout à l'heure, entre le pantalon et les arbres, c'est l'inverse. Quand les oiseaux s'envolent, il y a cette trace qui se dessine dans l'arbre jusqu'à ce que tous les oiseaux se soient envolés et que l'arbre devienne totalement blanc. Donc c'est que des jeux graphiques comme ça, c'est vraiment un dessin qui est au départ très symbolique pour dire les choses. Et puis comme vous l'avez dit, c'est de la narration muette, donc je peux pas avoir un dessin hasardeux, puisqu'il n'y a pas de texte pour ancrer mon discours, ma narration. Donc je suis obligée comme ça d'être très précise. Non, c'est ce que tu disais, Francine, que je suis consciencieuse, mais la narration muette implique ce travail très... Ouais.
Mais et quand vous dites ne pas savoir dessiner, là, j'avoue ne pas comprendre, parce que quand je regarde cette précision et cette subtilité du trait, enfin, c'est complexe,
Alors, ça moi, m'étonne. Je vais beaucoup voir du côté des affichistes, des graphistes, et je regarde ce qui fonctionne bien. Donc, confronter une petite trame un peu sensible, très graphique, avec un très bel aplat noir ou vert, je trouve ça très, très élégant. Et du coup, j'essaye toujours, voilà, c'est pas du dessin, en fait. C'est vraiment de la composition et du graphisme.
Alors, composition, comme on compose une musique, d'ailleurs.
Oui.
Et
on
peut entendre des sons de certaines pages où il y a beaucoup d'oiseaux, d'autres où il y a beaucoup de blancs. Et on peut, si, vous avez écouté de la musique qu'est-ce que vous avez écouté?
Alors, moi, j'ai écouté du Mozart, mais il y a beaucoup de personnes qui entendent du Beethoven, donc c'est très drôle. Parce que moi, j'ai écouté du Mozart.
Très bien. Alors, on va parler de ce second, la danse de la mer, qui est, alors là, avec des couleurs magnifiques, du vert, du jaune, du rouge, des ocres, du noir, bien sûr. Beaucoup de lumière, par moments, au contraire, des choses plus graves qui sont en vert et noir, notamment ces bateaux sur la mer, puisque là, il va y avoir le récit de la mer. Au fond, c'est le récit de la mer, la danse de la mer. Et cette mer, elle a une mémoire extraordinaire des fonds marins, de ses beautés, des dangers qui la menacent, et puis sur la surface, ces bateaux. Moi, évidemment, j'ai une petite idée, mais peut-être que je me trompe. Cette double page avec ces bateaux qui se font francs comme une guerre sur l'eau.
Oui, tout de suite, mais dès la première page, en fait, il y a une opposition. On le sait dès la première page. Il y a cette opposition entre cet énorme bateau et puis ces tout petits chalutiers un peu fragiles, un peu comme ça, qui restent si fragiles à la surface de l'eau. Et dès la première page, c'est annoncé, cette opposition. Et tout au long des premières pages, il y a l'équilibre qui commence à basculer.
Alors, il y a un travail d'édition là aussi. Par exemple, ce soleil ou cette lune qui se lève, je ne sais pas comme la couleur ne l'indique pas trop, mais... on dirait du collage. Oui. Or, non, si on passe la main, alors on passe la main parce qu'on se dit ça va.
C'est vrai, et c'est vrai que là, je dois féliciter mes graphistes. Mmh. Je peux dire le nom de Pascal Rosier et de Christelle Duhuile, qui ont vraiment travaillé en collaboration avec Laetitia. Il y avait vraiment un challenge. Oui. On s'est fait beaucoup de soucis pour ce livre.
Beaucoup.
Et puis, en fait, je crois qu'il est très bien.
Ça veut dire quoi, se faire beaucoup de soucis pour un livre?
Parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à cette excellence. Okay. Et c'est vrai qu'il y a encore un décalage. On peut d'ailleurs admirer les originaux de Laetitia à l'exposition à la médiathèque.
Justement, je voulais vous en parler de cette exposition.
Parce que c'est sûr qu'il y a, quand on voit les images originales, il y a une telle délicatesse, une telle précision et une telle fragilité qu'on se fait beaucoup de soucis. Oui.
Alors là aussi, pour fêter ses 30 ans, Francine Boucher, alors merci, hein, Laetitia de Vernay, j'aurais voulu parler de tous vos livres, mais voilà. Quand même, un mot sur le colloque le jeudi 2 mars et l'exposition. C'est comme les livres jeunesse, le texte et les illustrations.
Oui, si vous voulez, oui. Donc les illustrations, ça plutôt commencez par les illustrations, parce que ça commence le 27 février. J'ai demandé à Lénaïque Durel de faire la scénographie. Et Lénaïque Durel s'occupe de toutes les expositions et images du Festival de Saint-Malo. Elle est un voyageur. Donc elle a réuni une centaine de pièces
à la médiathèque
qui vont être exposées là-bas, voilà. À la médiathèque François Sagan. Je crois que ce sera très beau. Il y a aussi des mises en scène. Il y a de bon nombre de nos illustrateurs qui seront présents. Et puis le colloque, comme je vous le disais, c'est plutôt lié à ce thème de la liberté qui sera traité sous le regard de différentes personnes que nous aimons beaucoup.
Alors, vraiment, on a envie d'y être du matin jusqu'au soir et en tout cas dans l'après-midi pour retrouver aussi un auteur que nous aimons beaucoup, Bernard Friot, qui a un beau titre, hein, « Déplacer les frontières, le goût de l'universel ».
Oui.
Ça aussi, ça vous ressemble, Francine Boucher?
C'est vrai que c'est un peu prétentieux d'avoir quelque chose qui se passe que sur soi, parce que c'est un petit peu ça. Mais c'est pas tout à fait sur moi, mais surtout sur ma maison d'édition. Et donc, les gens ont réfléchi à qu'est-ce qui faisait de la joie de lire sa spécificité, je crois.
Et puis après, j'aimerais bien être une petite souris, parce qu'à 16h15, il y aura un débat. Les mains libres, quelles contraintes pour la critique du livre jeunesse? Rien que de poser la question, on imagine qu'il y a quelques contraintes quand même. Alors on verra ce que répondront les critiques littéraires qui seront là du Figaro littéraire, mais aussi de Télérama. Mon Quotidien et de Télérama. Et vous serez à la table ronde aussi.
Oui.
Merci d'être venu nous présenter ces 30 ans. Vous allez ouvrir de nouvelles collections pour les 30 ans qui viennent?
Non, il y aura un tiré à part qui sera offert. Nous avons demandé à nos illustrateurs et nos auteurs de dire qu'est-ce que c'était pour eux 1987 et 2017. Et nous avons nous allons publier un petit livre comme ça qui va sortir à l'occasion des 30 ans.
Des tout nouveaux auteurs, il y a des jeunes aujourd'hui qui
viennent... Oui, dans la BD par exemple, il y a des gens comme Usno qui sont très très talentueux. Au niveau des auteurs littérature, je dirais pas trop. Et au niveau des illustrateurs, on en découvre régulièrement des nouveaux.
Il y a aussi un thème, avant de vous laisser partir, qui m'intéresse bien. Vous vous posez la question, comment lier la tradition et la liberté? Parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, que ce soit en Hongrie ou ici, on a envie d'avoir à la fois les grands classiques à transmettre à nos enfants et en même temps d'ouvrir sur de nouveaux champs.
Ah ben il faut les deux, hein. Faut les deux. Je crois que le patrimoine est important aussi. Encore qu'il faut voir quel patrimoine. Mais moi ça m'intéresse beaucoup le patrimoine.
Et vous n'êtes pas fétichiste avec les classiques?
Pas du tout. Pas du tout. Mais je pense qu'après il y a comme le chemin que chacun fait en littérature, et ces chemins sont très très divers et peuvent être vraiment très même en opposition avec ce que les parents pensent souvent. Donc tout est ouvert et tout est libre. Je crois qu'il faut le dire haut et fort.
Eh bien, merci beaucoup Francine Boucher pour cette maison d'édition avant tout, parce que, alors oui, on n'a rien dit de la maquette, je les repère quand on ouvre les pochettes et que les livres sortent. Ça aussi, c'est important pour un éditeur d'avoir cette marque-là.
Oui, encore que c'est chaque fois un travail différent, chaque fois une surprise, chaque fois une aventure.
Mais quand même, il y a quelque chose. On sait que c'est la joie de lire.
Oui, alors je ne sais pas très bien ce qui fait ça, au fond. Ça, c'est assez mystérieux.
Voilà une question qui reste à poser. C'est bien, parce que sinon, on s'ennuierait. Merci, mesdames, d'être passées dans cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site de franceculture.fr. Vous y verrez aussi quelques-uns des livres de La Joie de Lire, mais vous pouvez aussi aller sur le site magnifique de la maison d'édition La Joie de Lire. Vous pouvez retrouver aussi le colloque pour pouvoir vous y inscrire éventuellement, ou aller voir l'exposition avec les originaux, ça c'est un vrai bonheur. Le Temps Buissonnier, c'est aussi toute une équipe comme une maison d'édition. Aline Payet, Rafik Zénine aujourd'hui à la réalisation, Annie Comis à la préparation et à la technique pour nous donner une voix un peu moins enrhumée. Il y avait Pascal Bénard, merci à tous. Le Temps Buissonnier, c'est fini pour aujourd'hui. Il va être l'heure du premier journal de la journée sur France Culture. Bon dimanche et à la semaine prochaine.